Bonjour, c'est l'heure du documentaire et nous allons nous intéresser à ce que nous faisons de nos corps. Vendredi, nous nous rêverons en rousse avec Hélène Frappa. Jeudi, Andrada Noaghiu donnera la parole à ses couples dits ouverts qui revendiquent une fidélité de cœur, de famille, de projet de vie, mais sans exclusivité sexuelle ou affective. Mercredi, Delphine Saltel s'attaquera aux modifications sexuelles provoquées par le Viagra. Mardi, Aurélie racontera à Maïlys Bessery comment elle a commencé à faire du repassage en sous-vêtements devant un homme jusqu'à arriver à vendre son corps. Aujourd'hui, c'est à la loupe qu'Anaïs Quin et Anne Fleury entament une histoire de la longue marche de celles qui modifient nos corps, les esthéticiennes. Ce documentaire bat en brèche la réputation de femmes légères qu'auraient eues les dites esthéticiennes.
Vous savez, la fille qui s'amène, qui a des boutons partout et tout, bon, ben, il fallait les nettoyer. Nettoyer les boutons. Hein. Puis elle me disait, mon petit, nettoyez, n'ayez pas peur de nettoyer. Faut nettoyer. Et je peux vous dire que c'est la vérité. Hein.
Moi, je dis toujours, si j'avais le visage aussi lisse que l'intérieur de mes mains, ça serait vraiment une de... Alors ça, c'est la meilleure des thérapies, c'est les crèmes des autres.
Hein. J'ai toujours entendu dire que les esthéticiennes, elles passaient leur vie à être poursuivies à boulet rouge par tout le monde, par toutes les professions, par les kinés, par les médecins, par le Conseil de l'Ordre, par tout le monde. Et ça n'a pas cessé depuis 1950. Voilà. À partir du moment où un gâteau est intéressant, tout le monde essaye d'en avoir une part.
À la pince et à la cire.
Bonjour madame.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec Samantha pour un enveloppement.
Madame Pomeran.
Oui.
Samantha sera à vous dans 5 minutes. Marie, lâchez vos épingles, accompagnez madame en cabine et proposez-lui un café.
Merci, c'est gentil.
Des blouses roses bonbons, de la blondeur et du confort, des paroles légères et chuchotées par une jeune femme disponible et parfumée qui n'a pour seul souci que votre sérénité, l'image de l'esthéticienne à la dent dure. Ouvrière spécialisée du fantasme de l'éternelle jeunesse, garante du bien-être social, depuis la libération, le métier se construit. De la socio-esthéticienne au spa manager, de la parure au bien-être, la quête de crédibilité avance péniblement. Emploi féminin par excellence, sans qualification et sans diplôme à l'origine, l'esthéticienne ne connaîtrait pas la crise. Salon de quartier ou centre multiplex, des pratiques empiriques aux innovations scientifiques, les modèles sont nombreux et la concurrence acharnée. Les esthéticiennes négocient avec de nombreuses industries, des parfumeurs aux concessionnaires d'appareils de pointe, et la frontière légale est parfois franchie, provoquant l'indignation des professions médicales et paramédicales. Entre bon sens, pratique, appétit d'innovation et regard social, l'esthétique au travail.
En 68, c'est-à-dire autrefois, j'étais secrétaire de direction, et la direction changeait d'endroit, n'était plus à Nantes, aller à Tours.
Monique Dufour.
Et bah, évidemment, moi, il n'était pas question. Mon mari avait sa situation à Nantes. On avait fait construire. Il n'était pas question de partir. Donc, je me suis retrouvée sans emploi. Et on parlait beaucoup d'esthétique à ce moment-là. Ça m'avait toujours attirée. Je me suis renseignée. Il fallait aller à Paris. Ça ne se passait pas. Il n'y avait pas d'école. Il y avait une école d'esthétique à Nantes. C'est tout, quoi. Bon, alors, j'ai passé mes examens. Et il s'est trouvé que dans la rue Crébillon, la rue principale de Nantes, il y avait un grand magasin qui s'appelait Le Printemps, qui a fait, je ne sais pas, ils ont déposé le bilan ou quoi, enfin bref, ils ont décidé de partir, de quitter Nantes. Et c'était un magasin qui était quand même très grand, sur deux étages, donc ils ont décidé de le morceler. Mon mari a eu vent de ça, et je me suis dit, oui, évidemment, rue Crébillon, mais... Je ne voulais pas être directement dans la rue principale, directement pignon sur rue. Pourquoi ? Parce que l'esthétique, on n'en parlait pas. Hein. Les femmes qui se faisaient quelque chose, c'était des femmes de mauvaise vie. Et puis, ils ont créé un passage et ça me convenait tout à fait. Ça permettait que les gens pouvaient entrer chez moi par la rue principale, la rue Crébillon, et pouvait ressortir en prenant l'escalator et ressortir par la rue derrière. Donc on ne les voyait pas. Et j'ai été quand même au début bien contente d'avoir fait ça. Et j'ai choisi l'emplacement qui se trouvait tout à fait dans le fond du passage.
Au moment où vous commencez, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Françoise Maurice, vous êtes kinésithérapeute. Comment vous êtes-vous retrouvée dans ce milieu de l'esthétique ?
J'étais accompagnée par mon mari, hein, qui était kinésithérapeute aussi. Mon mari aimait la beauté des soins, si vous voulez, et du visage. Et en même temps, il a fait tout un travail sur le traitement des cicatrices, sur différents traitements. Il n'y avait rien à ce moment-là, de fait. Donc il a participé à redonner un texte précis à des techniques manuelles pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire ou pas.
1946, Tribune de Paris.
L'élégance, certes, tient d'une place importante, mais la beauté, elle aussi, fait l'objet des soins les plus attentifs. Car il y a toujours eu des recettes de beauté et il y a désormais une technique de la beauté.
C'est ce qui nous amène à poser ce soir la question suivante. La technique de la beauté féminine a-t-elle fait des progrès ?
Eh bien, je vous dirais que le goût de la beauté s'est tellement développé chez la femme qu'il a provoqué de nouvelles professions, qu'il a provoqué des spécialistes qui s'occupent et qui se sont penchés sur cette question, la beauté féminine. En particulier, pour citer un exemple, regardez les visages que l'on voit aujourd'hui au cinéma. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un réel progrès entre l'époque de l'année 1946 et l'époque, par exemple, de 1920 ? Vous voyez et constatez, vous verrez une énorme différence.
Les grandes success stories à l'américaine, comme Elisabeth Arden, comme Elena Rubinstein, ça a influé sur le milieu ?
Ils avaient une clientèle un peu particulière de personnes. Hein,
très élitiste ?
Oui, elles se sont montrées un peu partout et ça a donné un essor à l'esthétique. Et puis, je crois qu'après la guerre, tout le monde avait envie de profiter un peu de la vie et d'être mieux. Il y a ça, quand il y a eu une grande brisure, on a envie de sortir et de profiter. Il y a eu les danses après la guerre de 14, il y a eu l'esthétique après la guerre de 14. Non, mais il y a eu une évolution des rapports entre les hommes, les femmes, la coquetterie, de tout.
La beauté se crée. Lait de beauté, lait hydratant. Une crème précieuse pour la beauté de votre teint. Pénétrante sève de beauté. 3 minutes de maquillage, 8 heures de traitement de beauté. Hydrater, nourrir, vitaliser, embellir. Source de beauté, poudre de beauté.
Alain Maurice, directeur de l'école Françoise Maurice, est fils de Monsieur et Madame Maurice.
En 1938 précisément, mon père, parce que ma mère était beaucoup plus jeune et n'était pas encore mariée avec lui, avait déposé la marque Jeune et Belle. C'était un jeu de mots qu'on aimait bien à l'époque. Après, bon, bien sûr, il y a eu une pause pendant la période de la guerre. Et après, en 44-45, mes parents ont eu l'occasion, alors là, de se marier, c'est un fait, et d'habiter rue François 1er, dans laquelle ils ont créé un des premiers instituts de beauté. On a tous à l'esprit, dans des journaux comme, je crois, l'Illustration, d'autres journaux de l'époque, on a des images, on a des publicités qui sont absolument fantastiques sur comment retrouver tous ses cheveux, etc., etc. Grâce à la poudre du docteur Machin, on va avoir une peau rajeunie de 20 ans, on n'hésite pas à vendre ce rajeunissement, en assurer la quantité, c'est-à-dire en termes d'âge, on perd 20 ans, on perd 10 ans, on perd 15 ans. En réalité, on ne perd pas grand-chose, sinon son porte-monnaie. Voilà. Donc, ça a été le but, ça a été d'essayer de rendre cette profession beaucoup plus crédible. Et aujourd'hui, je pense qu'elle l'est.
Et selon vous, pourquoi, dans cet après-guerre, on tente de sortir de cette pensée magique de l'esthétique, justement, qui promettait monts et merveilles sans aucune assise scientifique, finalement? Oui. On change de territoire.
Voilà, on change, mais je pense qu'on en a changé pour énormément d'activités. Le consommateur commençait peut-être à exister un tout petit peu. On a des progrès sociaux, des progrès scientifiques, et naturellement, on ne peut pas rester en arrière. Mais je pense que c'était un esprit un petit peu général, c'est pas propre à l'esthétique.
Veuillez écouter « À vous, mesdames », un magazine du journal Parlé réalisé et présenté par Elisabeth Darcet.
Jean-Gabriel Grand, 1950.
Une école d'esthéticienne n'est pas un établissement d'enseignement comme les autres. D'abord, la salle de cours est installée à l'intérieur même d'un institut de beauté. Ce qui est tout naturel, puisque les élèves sont destinés à devenir masseuses, maquilleuses de cinéma ou de télévision, ou à faire partie du personnel des instituts de beauté. 3 mois de cours et les 25 jeunes filles, en blouse blanche, qui sont installées devant des tablettes chargées de flacons et d'instruments, pourront passer le diplôme qui leur permettra, si elles le désirent, d'ouvrir un institut de beauté à leur propre compte. Aujourd'hui, elles n'en sont qu'aux travaux pratiques. Dans un instant, elles vont s'entraîner aux soins sur des modèles vivants. Et pour acquérir la souplesse des mains et du poignet indispensable, elles tapotent leur table en cadence.
Allez-y. Plus vite, s'il vous plaît. Plus vite.
Et ça dure longtemps, ce petit tapotement?
Eh bien, tous les matins, pendant 5 minutes, nous faisons pas seulement des tapotements, mais d'autres mouvements d'assouplissement, également des doigts, comme une secrétaire devant sa machine à écrire.
Certaines élèves sont étrangères, et la monitrice doit avoir auprès d'elle une interprète.
Chouette, chouette.
Ça doit être très agréable, ce petit tapotement.
Oh oui, monsieur, surtout la circulation est très, très activée.
Je suis sûr que notre technicien a envie d'essayer.
Voulez-vous, monsieur, servir de modèle?
Mylène Basset, à quel âge êtes-vous devenue esthéticienne?
Eh bien, tardivement. Je devais avoir 42 ans. Et c'était une vocation très tardive. Mais vraiment, j'ai jamais regretté d'avoir choisi ce métier. Ça a été vraiment des années parfois dures, mais fort agréables, je dois dire.
Et qu'est-ce que vous avez fait avant?
Avant, j'ai fait ce qu'on devrait toujours faire, j'ai élevé mes enfants. Et puis après, j'ai divorcé. Et j'ai trouvé que c'était bien d'avoir un complément pour mener une vie. Mais je n'aurais pas pensé que c'était quand même aussi prenant. Hein.
Vous avez quelle formation?
Alors, j'avais tout bêtement mon bac et j'ai passé mon CAP. Alors ça a été assez pénible, je dois dire, 41 ans. Alors ça, revenir à l'école, reprendre la petite blouse, ça c'était un peu dur, mais finalement très intéressant. Hein. Et donc j'ai suivi l'école Gatineau qui, à l'époque, était l'école de référence. Hein. Le premier jour, ça a été très dur parce qu'il fallait vraiment prendre... une attitude d'élève, parce que quand même, j'avais vraiment perdu l'habitude. Hein. Après, effectivement, se dire que c'était un an où il fallait passer, accepter d'être traité comme des gamines, ce qui était logique. Hein. C'était une formation, une excellente formation, au passage.
Hein. Elle était où, cette école?
Alors, cette école était rue de Ponthieu. Et en réalité, c'était assez intelligent parce que c'était la première marque de parfumerie qui avait ouvert des cabines et donc qui avait un côté très technique. Hein. Jeanne Gatineau était quand même une pionnière à l'époque. Hein. Elle avait sorti des produits qui étaient beaucoup moins fantaisistes que beaucoup. Hein. C'est toute une génération d'ailleurs d'esthétique. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur sa fille, qui était kiné en réalité. Et donc, tout ce qui était massage était vraiment très technique. Hein. Il n'était pas question de mettre ses mains n'importe où, sans savoir pourquoi on les mettait là. Bon, et elle avait l'œil à tout, je dois dire. Donc là, au moins, on avait la sensation de faire quelque chose d'intelligent.
Monique Dufour, vous avez quel diplôme?
Moi, il n'y avait que le CAP à ce moment-là. C'est tout. Hein. Donc après, moi, je suis une autodidacte. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Donc je m'étais fait une obligation d'aller 4 fois à Paris. Le premier stage qu'il y a eu, ça a été fait par M. Pierre-Anthony, qui était le directeur d'un journal. Il n'y avait qu'un seul journal à ce moment-là, qui s'appelle toujours d'ailleurs Les Nouvelles Esthétiques. Et le premier stage qu'il a organisé, c'était un stage qui était fait pour toute la France. Hein. Eh bien, on était 6 personnes. Donc, il l'a annulé parce que ce n'était pas suffisant pour qu'il puisse rentrer dans ses frais. Donc, je me suis bien assis pour rien. Mais enfin, ça a été reculé. Puis après, bon, bah, il a pu le refaire. Hein. Parce qu'il faut vous dire que quand je suis allée, moi, bah, disons, ça devait être en 70, qu'est-ce qu'il y avait pour les soins du corps? Bah, il n'y avait rien. On faisait un genre de sauna, mais ce n'était même pas le sauna. Ça n'existait pas comme ça. Hein. C'est tout, c'est tout.
Qu'est-ce qu'on vous apprenait à faire dans le CAP?
Ah ben, c'était les soins du visage. On nous a appris d'abord à connaître tous les muscles du visage. Ça, c'était très important. Hein. Donc, c'est surtout ça qu'on nous apprenait. Les gommages, ça n'existait pas à ce moment-là. On faisait des masques. Hein. Donc, c'est pour ça que les soins étaient quand même plus réduits, quoi, tout à fait au départ. Mais, néanmoins, moi, j'y croyais dur comme fer. Hein. Ben oui, il faut d'ailleurs. Hein. Il faut.
Monsieur Maurice, vous êtes également professeur. Je crois que vous avez une école où vous formez des esthéticiennes. Ces cours sont-ils uniquement théoriques ou pratiques aussi?
Alors, ces cours sont à la fois théoriques et pratiques. Et nous nous efforçons, dans cet enseignement supérieur d'esthétique, de donner le maximum de connaissances à nos élèves, premièrement pour qu'elles connaissent les possibilités de leur profession et aussi leurs limites, il faut bien le dire. Parce que dans cette profession d'esthéticienne, on a supposé que l'on pouvait faire un certain nombre de soins qui sont pour ma part inutiles et qui portent plutôt préjudice à l'esthétique qu'ils ne servent cette esthétique. Or, l'esthéticienne bien formée, qualifiée, a tous les moyens actuellement de prévenir les imperfections esthétiques et surtout de retarder des ans le réparable outrage actuellement.
Et revenons à votre enseignement. Combien de temps dure-t-il d'abord?
Mon enseignement dure une année scolaire. Nous avons eu des réunions fréquentes à l'Éducation nationale et au ministère de la Santé publique de façon à normaliser le temps des études. Je suis pour un temps d'études beaucoup plus lent qu'il n'est actuellement et je voudrais le voir porter au moins à 2 ans de façon à préparer un certificat d'aptitude professionnelle qui permettrait à ces esthéticiennes de bien connaître leur profession et surtout de ne pas appliquer à tort et à travers des procédés qui n'ont de valeur que par la publicité qui est faite autour de ces appareils.
Françoise Maurice, quand vous montez votre école en 1946, qui ouvrira en 1947,
oui.
Quelle est votre ambition? Qu'est-ce qui existe déjà?
Bah, c'est de faire des soins sérieux et pas de faire des cours en 2 mois ou 3 mois où on fait uniquement des petites choses sur le visage, le cou, le décolleté, les pieds, la beauté des pieds, la beauté des mains. Mais c'était de donner une consistance à la profession d'esthéticienne. C'est pour ça qu'on a lutté pour avoir un diplôme, pour avoir quelque chose de vrai.
Et à l'époque, avant que vous montiez votre école, qui s'occupe d'enseigner aux futures esthéticiennes leur métier?
Il y avait quelques écoles, mais là, c'était la sortie de la guerre, donc il y avait quelques écoles, mais pas beaucoup. Hein. C'était plus de la beauté superficielle et du maquillage, et déjà, malgré tout, du bien-être.
Ils ont voulu apporter à l'esthétique des
Alain Maurice.
Débuts de véritables techniques. On savait pourquoi on le faisait, on expliquait pourquoi on le faisait. Sur le plan physiologique, sur le plan de la qualité de peau, on observait, on mesurait des résultats. Et donc on passait à, pas une science bien sûr, mais on utilisait les sciences pour bâtir les fondamentaux d'une profession et produire les premiers programmes de formation officiels, puisque le CAP a été créé en 63, je crois. C'est le premier diplôme, et ce programme n'a été fait qu'à partir, bien sûr, de ce qui était l'existant des écoles d'esthétique, et en particulier la nôtre, qui avait beaucoup contribué à établir ses propres programmes, puisqu'il n'y en avait pas d'officiel à l'époque.
Et votre CAP, vous l'avez obtenu à quel moment, à quelle date, Mylène Basset?
Au mois de juin 75.
Lorsqu'on reprend ses études à 42 ans pour devenir esthéticienne, est-ce que cette profession, ce métier, donne l'impression qu'on va pouvoir rapidement être indépendant, monter son propre salon et être son propre patron.
Alors là, c'est vraiment manquer complètement de lucidité, hein, si on pense ça. Parce qu'il faut déjà avoir un esprit commercial, avoir connaître la profession vraiment, la clientèle. Donc, moi, personnellement, il m'est arrivé souvent d'avoir des filles de clientes qui venaient me demander conseil. Et je leur expliquais toujours hein, qu'il fallait vraiment aimer ça, hein, que de toute façon, pour gagner sa vie, c'était assez difficile. Hein. Il n'était pas question d'avoir une affaire tout de suite, hein, qu'il fallait aller travailler chez les autres hein, pour bien comprendre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Hein. J'ai commencé à travailler chez Gatineau. Ça, c'était... Alors ça, je m'en suis vite lassée, à part qu'on trouvait du travail tout de suite. Alors ça, c'était assez satisfaisant. Mais le problème, les cabines Gatineau n'étaient que dans des parfumeries. Et quand vous êtes dans une parfumerie, vous ne gérez pas le stock, mais vous êtes quand même responsable de... Il faut que le stock tourne. Hein. Vous vendez à la cliente les produits dont elle a besoin. Mais si la personne achète en fonction des promotions qu'on lui fait, il faut écouler son stock et ça, c'est odieux. Et je suis... Bon, ben, j'ai vu tout de suite hein, que j'aurais un frein, enfin que mon avenir n'était pas chez Gatineau. Hein. Voilà.
Dans la rue Crébillon, il y avait 3 parfumeries.
Monique Dufour.
Qui avaient toutes les marques, parce que c'était les parfumeries, c'était du Rochas, du Guerlain, de l'Hermès, du Mode. C'était les grandes marques. Bon, qui faisaient des petits soins là, mais c'était surtout le but, c'était surtout de vendre les produits, évidemment. Alors que moi, j'arrivais avec des produits de laboratoire pas connus du tout. Hein. Et d'ailleurs, on m'a fait la réflexion, on me dit, mais vous n'avez pas Dior, vous n'avez pas Rochas, ben alors qu'est-ce que vous avez? Eh bien, j'ai dit, j'ai rien, j'ai mes mains. Et c'est comme ça que j'ai démarré et... Ça a démarré doucement. Je me rappelle le premier jour, j'ai vendu un rouge à lèvres, pour vous dire, ça m'est resté gravé. Mais il faut dire que j'avais ouvert un 1er août parce que je me suis dit comme ça, j'aurais le temps de m'y habituer et pas y aller trop fort.
Et quel rapport vous aviez justement avec vos collègues parfumeuses de la rue Crébillon?
Oh ben, j'avais pas de rapport. C'est-à-dire que le premier jour que j'ai ouvert, celle qui était un petit peu plus, disons, connue, elle était venue devant mon magasin et puis je l'avais entendue parce qu'au mois d'août, la porte était ouverte et elle a dit « Oh, bah, elle tiendra pas, elle n'a pas de marque. » Alors elle tiendra pas. Bah, n'empêche que les 3 parfumeries qu'il y avait rue Crébillon ont disparu et moi, j'étais toujours là. Hein. Tout de suite, quand je me suis installée, moi, j'ai adhéré au syndicat. Peut-être que j'ai été bercée dans ça parce que j'avais un oncle président du syndicat, mais lui, c'était dans la métallurgie qu'il était. Donc, je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, il me demandait pour aller mettre des tracts dans les boîtes aux lettres et tout ça. Donc, peut-être que j'ai été influencée aussi par ça, ouais, peut-être.
Et quand vous adhérez à ce syndicat professionnel, Monique Dufour, quelles sont les grandes luttes du moment? Quelles sont les préoccupations du syndicat?
Ah bah, d'abord, se faire reconnaître. Maintenant, ça vous paraît simple, mais on était reconnus de personne au départ. Hein. Donc, il fallait se faire reconnaître de l'artisanat, se faire reconnaître de tous les ministères, que ce soit le ministère du Travail, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, quoi.
La santé aussi.
La santé, bien qu'on ne fasse pas partie du tout de la santé. Hein. On est tout à fait en dehors de ça. On est artisane. Nous, on ne s'occupe pas de soigner. On s'occupe d'embellir. Et c'est tout.
Masque clarifiant. Super crème contre les pattes d'oie. Premier signe indiscret de votre âge. Baume rééducateur des paupières. Lotion recommandée pour le remodelage de l'ovale du visage. 20 ans de moins en 20 minutes.
Michèle Delattre, directrice de la rédaction du magazine professionnel Les Nouvelles Esthétiques.
Alors, une esthéticienne, c'est un bébé qui sort du ventre de sa mère en se disant « un jour, je serai patronne ». D'ailleurs, dans le monde de l'esthéticienne, il y a 70% des esthéticiennes qui sont patronnes de leur propre institut avec une seule employée, elle-même, ou éventuellement une petite une assistante. Sinon, il n'y a que 30% des instituts qui appartiennent à des marques ou qui emploient beaucoup, beaucoup d'esthéticiennes, mais elles ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup une mentalité de patronne et de dirigeante. Une esthéticienne, c'est quand même quelqu'un qui dit « un jour, je travaillerai pour moi, je serai à côté de mon mari, mais j'aurai mon propre business, moi ». Et comme, malgré tout, bon, un institut de beauté, ce n'est pas non plus une multinationale où on peut arriver avec quelques emprunts et l'aide de la famille à s'acheter un institut de beauté petit.
Une fois passée la période des Trente Glorieuses, très rapidement, dans les années 70-75, on a commencé à avoir des soucis d'emploi.
Alain Maurice.
Qui ont porté un grand, grand préjudice à la formation d'esthéticienne, parce que justement, il y avait beaucoup d'écoles qui formaient beaucoup de personnes sans s'occuper toujours de leur assurer un diplôme, de leur assurer des vrais cours, une vraie formation qui exclut par exemple les cours par correspondance. Ça semble évident, mais c'est pas aussi évident que cela. Et la crédibilité de la profession en a pâti énormément. Pourquoi ? Parce que vous alliez dans les années donc 75 jusqu'en, on va dire, 90 à peu près, dans un centre d'information et d'orientation en tant que jeune femme pour faire une formation en esthétique. Et on vous disait, mais mon Dieu, à quoi pensez-vous ? Il n'y a aucun débouché là-dedans.
Ok, alors je vais vous donc vous distribuer les feuilles de collagène. N'oubliez pas de bien
à l'école d'esthétique, Élisée Marbeuf.
La taille entre le pyramidal et le bout du nez, bien sûr. Alors, voilà, ne la faites pas trop dépasser, Marine. Il faut D'accord. vraiment que ça vienne au cuir chevelu ici. Sinon, vous en perdez. Hein.
Et on coupe un triangle.
Alors, voilà, d'abord, vous coupez ça. Et ensuite, vous coupez deux petits triangles qui seront donc à rajouter pour le nez. Hein.
Petit.
Oui, parce qu'elle a un tout petit nez, Jessica. Voilà, donc vous prenez votre éponge comme ceci et vous commencez à appliquer au niveau du front. Non, ne lissez pas, tapotez, voilà, comme ça. Hop, très bien.
Muriel Ménager, à quel moment vous avez intégré cette école de la rue Marbeuf ?
Alors, en 1979, donc j'avais dans les 15 ans, quoi. Voilà, et j'ai fait mon année de CAP.
Voilà. Et comment vous avez décidé de devenir esthéticienne ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, au début, je vais étonner, mais au début, mes parents m'avaient mis en école d'esthétique parce que j'étais pas très très bonne à l'école, je travaillais pas très bien, donc ils ont dit bon bah tu vas faire une école d'esthétique. Donc au début, j'avoue que c'était un petit peu par hasard que mes parents m'ont mis à faire mon année d'esthétique, et puis après, au fil des mois, en fin de compte, ben j'ai pris goût, et puis j'ai eu mon CAP, et puis après je suis partie quand même quelques années à travailler en institut, et puis là ça fait 10 ans que je suis à l'école Marbeuf, quoi. Donc
Et pourquoi ont-ils choisi cette formation-là pour vous ?
Parce que déjà, ma mère aimait l'esthétique. Elle aimait l'esthétique. Donc, c'était ça ou la coiffure, hein, de toute façon. Hein. Et puis, ils ont dit, c'est un métier d'avenir. Ils ne se sont pas trompés, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, en 79, de toute façon, c'était un petit peu tabou. C'était réservé à une clientèle particulière. Alors que ma mère avait dit à l'époque, c'est un métier d'avenir, tu ne seras jamais au chômage. Ça, elle me l'avait dit. Elle avait raison, d'ailleurs. Parce que je n'ai jamais été au chômage en plus de 30 ans, quoi.
Et quand vous comparez les cours que vous aviez, vous, à 15 ans, à la fin des années 70, dans cette école, et ceux que vous donnez maintenant ?
Alors, déjà, l'école, c'était pas les mêmes cours qu'on donnait, parce que c'était beaucoup moins, pour moi, c'était beaucoup moins strict. Peut-être que le CAP était plus facile à obtenir, hein, j'avoue. Hein. Maintenant, on a quand même des critères, on le donne plus comme ça, et même tous les diplômes, je parle du CAP, mais le BP, le Bac Pro, le BTS, c'est quand même beaucoup plus suivi, ça, c'est sûr. Mm-hmm.
Alors, montrez-moi comment vous faites là. Vous les avez voulu à court comme ça ?
Oui.
Non, alors vous travaillez trop sur le. Regardez. Vous n'avez pas mis le tip soft, Anne ? Le ramollisseur.
Il va servir à quoi ?
Ramollir. La capsule. Et ça va vous gagner. Vous allez gagner du temps.
Ah, d'accord.
Au travail.
J'aime beaucoup m'occuper des gens, j'aime beaucoup la beauté.
Et plus tard, je voudrais me diriger vers maquilleuse professionnelle. Donc vraiment tout ce qui est maquillage dans le cinéma, sur plateau. Voilà.
Et le mouvement, voilà, c'est ça l'entraînement, c'est le mouvement comme ça. Voilà. Et vous appuyez.
D'accord.
D'ailleurs, le problème du maquillage, hein, c'est ce que je dis toujours quand des jeunes viennent demander le métier. Je leur dis, attention, mais qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Alors le trois quarts du temps, ce qu'elles adorent, c'est le maquillage. Eh bien, il faut dire que manque de chance, hein, en cabine, on maquille peu.
Mylène Basset.
Et quand, pour une raison précise, c'est qu'après un soin, bon, on fait un maquillage qui est plutôt moche. Hein. Bien sûr, la fille ne part pas comme un pot de Saint-Doux, mais bon, on fait quelque chose de léger. Hein, mais bon, ce n'est pas un maquillage. Mais quand les gens viennent vous dire « je veux changer de tête », alors là, méfiez-vous. Hein, parce que alors là, vous êtes tranquille. La personne qui veut changer de tête et qui demande à quelqu'un de changer sa tête, c'est pas clair du tout, cette histoire.
Ouh, ça sent bon dans cette pièce. Je suis comme transportée dans le midi.
1950.
Qu'est-ce que c'est que ce bain de siège-là? C'est là qu'on va me mettre?
Oui, madame. C'était dans cette pièce, nous faisons le bain d'arôme. C'est un bain désintoxicant et amaigrissant.
Ce bain, d'ailleurs, est basé sur l'utilisation de terres radioactives et sur l'utilisation aussi de certaines compositions d'huiles essentielles qui ont justement le pouvoir de s'attaquer aux tissus adipeux.
Alors maintenant, madame va se coucher sur le lit. Je vais lui faire un effleurage et alors j'attirerai son attention car l'huile avec laquelle je vais la masser comprend les mêmes propriétés que les essences qui se trouvaient dans les godets.
C'est un traitement de complément.
Oui, absolument.
Et alors, je pense qu'il va falloir que nous sortions à nouveau.
Oui, je vous en prie.
Ou peut-être tout simplement, nous allons pouvoir nous tourner vers le mur et fermer les yeux.
Oui.
Si vous le permettez, madame.
Mais je vous en prie, monsieur.
Ça évitera une perte de temps.
Oui. Je comprends bien.
Moi, dès le départ, je voulais m'intéresser justement au corps également. C'est pour ça que, à Paris, je me suis renseignée sur les centres qui faisaient du corps. Et j'ai quand même été assez déçue de voir ce qu'ils faisaient à ce moment-là, parce que c'était très peu de choses, hein, très, très peu de choses. Hein,
hein. C'était quoi?
C'est un genre de sudation qu'ils faisaient, et puis c'est tout. Alors, ils vous prenaient les mesures avant et après, hein. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Hein. Je voyais bien comment elle faisait quand elle prenait avec son centimètre qu'elle prenait ses mesures. Oh, à la fin, vous avez perdu 3 centimètres. C'était pas vrai, du tout. Je n'avais rien perdu du tout. Hein.
Donc en fait, on faisait transpirer les clientes, mais on ne les touchait quasiment pas.
Ah non, on vous mettait un genre de couverture. C'était pas vraiment la couverture chauffante, mais enfin, c'était un petit peu similaire, quoi. Vous voyez, c'est ça. Alors on se tracassait pas de savoir si vous aviez une bonne circulation, si vous avez les jambes lourdes, si vous avez... Ça, non, ça, on ne vous posait pas de questions. Hein. Ça, c'est comme ça.
Il n'y avait pas de diagnostic?
Pas du tout. Ouais, c'était comme ça.
Au début des années 80, lorsque vous commencez votre carrière, est-ce qu'il y a des choses, des gestes, certains soins qu'on ne ferait plus du tout aujourd'hui?
Alors non, c'est le contraire, justement. C'est maintenant des gestes, en fin de compte, que l'on fait qu'on n'aurait pas fait à l'époque. Voilà. Par exemple, pour les soins du corps, si on fait un modelage californien, on va masser le corps entier.
Muriel Ménager.
À l'époque, ça pouvait choquer un petit peu.
C'est-à-dire les fesses,
la poitrine, voilà. Maintenant, on le fait sans... Après, c'est plus, vous savez, c'est plus impudique de toute façon. Au début, ça leur paraît impudique, hein. C'est un peu gênant, je ne veux pas me montrer, etc. Mais à la fin, pas du tout. Et d'ailleurs, quand après, on masse régulièrement, je veux dire, on ne fait même plus attention si on a... Je veux dire, c'était moins dans l'air du temps, enfin... Regardez, les épilations, le maillot intégral, par exemple. Le maillot intégral, on ne le faisait pas. Maintenant, le maillot intégral, c'est vous le faites partout. Je veux dire, on le montre même aux élèves. Je pense qu'on ne voit plus du tout l'esthétique, la pratique de l'esthétique, on ne la voit plus du tout de la même manière. Maintenant, c'est apporter quelque chose. Donc, soin du corps, soin du visage, etc., il n'y a pas de, entre guillemets, de tabou, voyez. De toute façon, en 79-80... Bon, déjà, pour le CAP, on ne faisait pas de soins corps, mais il y avait une session soins corps en plus. elle était pas, elle avait pas énormément de succès. Maintenant, on fait des sessions corps, c'est bondé. C'est les élèves s'inscrivent parce qu'elles veulent connaître le corps. Et qu'est-ce qu'on va leur demander quand elles commencent à travailler en institut? Le corps. Hein. Attention.
D'abord.
Ah, ça, le visage, c'est une chose. L'épilation, c'est une chose parce qu'il faut savoir le maquillage, la manucure, la beauté des pieds, etc. Tout ce qui est teinture de cils, permanente de cils, il faut savoir. Mais ce qu'on leur demande en premier, et si elles n'ont pas ça sur leur CV, soins corps, il faut connaître les soins corps. C'est vraiment dans l'air du temps.
Et avant cette crise de 1973, qui fait connaître à la France une grande période de chômage que l'on redécouvre, qu'on a l'impression de découvrir, mais que l'on redécouvre finalement...
Bien sûr, oui.
Quel est le modèle? Une esthéticienne typique travaille dans quel cadre?
Il y avait, comme aujourd'hui, plusieurs modèles. Donc déjà, à l'époque, il faut savoir que, dans les toutes premières années, le public était plus âgé. On a une population d'adultes en reconversion qui vient un petit peu prendre la place de ces jeunes femmes qui... en 45, 46, enfin en 46, 47 ou 48, venaient faire cette formation parce que, comme à l'époque, c'est pas du tout péjoratif, mais elles étaient mariées, elles voulaient s'occuper un petit peu, ou leur mari voulait qu'elles aient une formation complémentaire, ou avaient les moyens de leur offrir un institut. Donc, dans la toute première partie, c'était un public plus mature. Après, on est passé, au contraire, à un public extrêmement jeune, surtout dans les années 80.
Où l'esthéticienne, enfin le métier d'esthéticienne devient un métier à part entière, peut-être aussi.
Aussi, et où on trouve plus d'emplois salariés. Et où travaille-t-on? Dans les grands instituts. On travaille pour des marques de produits cosmétiques, ça existe déjà, c'est-à-dire qu'on va montrer à des clientes, à des consommatrices, comme à de futurs professionnels, comment on applique les produits, quels bienfaits on peut en tirer, quel est l'intérêt. On a donc une partie commerciale et une partie purement technique, avec bon, des techniques qui évoluent, puisque les épilations par électrocoagulation seront interdites que plus tard et réservées au seul corps médical que par un décret de 50 et quelques.
Qu'est-ce qu'une épilation par électrocoagulation?
Eh bien, c'est une épilation avec une aiguille qui pénètre dans le bulbe et qui va coaguler le bulbe par un faisceau électrique.
Qui va le détruire.
Qui va le détruire.
C'est une épilation définitive.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'épilation définitive et qui est aujourd'hui pratiquée par les seuls dermatologues. Les esthéticiennes n'ayant droit qu'à l'épilation à la cire et à la pince depuis ce décret.
Est-ce que nous pouvons rentrer?
Ah oui, monsieur, je vous en prie, vous me voyez dans cette pièce. C'est formidable, la sensation que j'ai.
Les essences dans les godets sont chauffées par ces lumières.
Elles sont chauffées par ces lumières, mais pourquoi y a-t-il des essences qui sont rouges, des essences qui sont bleues, des essences qui sont jaunes? On se croirait à un arbre de Noël.
Ce sont les différents rayons du spectre solaire, les infrarouges, les ultraviolets, par exemple.
Et lorsque vous avez monté votre institut, Mylène Basset, comment vous l'avez voulu? Comment vous l'avez imaginé? À quoi ressemblait-il?
Bon, alors d'abord, j'ai pris cette affaire, j'ai repris une affaire. Hein, et la façon dont le magasin était organisé, déjà, ça correspondait à ce que moi je pensais. Ça ne ressemblait pas tellement à un magasin. Il y avait un bureau où on recevait les gens, il y avait une vitrine de produits, mais évidemment pas comme en parfumerie, avec les produits de la personne. Il y avait un fichier, alors ça pour moi c'est très important, les gens qui font pas de fiches, alors ça j'ai beaucoup de peine à comprendre. Hein. Les cabines étaient intelligemment installées, ça correspondait, moi, à ma façon de voir le métier.
Donc vous avez mis un coup de peinture et c'était suffisant?
J'ai même pas mis de coup de peinture parce que tout ce qu'elle avait fait, à part les bibelots et les cadres qui étaient égyptiens, bon, ça, je peux pas dire que bon, ça m'emballait tellement. Alors ça, c'était pas difficile. Hein. Mais le reste, moi, j'étais beaucoup plus technique. Alors moi, je l'ai remplacé par des schémas de la peau. Enfin, moi, j'ai un côté pionne, hein, quoi, c'est net.
Pionne.
Oui, à expliquer aux gens pourquoi je fais les choses. Hein. Donc, quand j'épile, je fais une superbe Parce que les gens vous demandent toujours, mes poils vont-ils repousser? Ben oui, ils vont repousser. Et pourquoi? Ben parce qu'on les arrache à tel niveau, et c'est à force hein, de les épiler qu'on arrive à les faire dégénérer. Mais bon, le reste, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et j'ai gardé pratiquement les trois quarts de la clientèle. Hein. Contrairement à ce qu'on me disait au début, hein, je n'avais une clientèle que de femmes qui travaillaient. Donc, déjà, hein, bon, ça veut dire qu'elles assumaient plusieurs vies. Hein. Donc, je trouve qu'on a beaucoup de chance, hein, parce qu'en cabine, on côtoie des gens très différents et passionnants. Hein. Ce que je dis, on a la chance, en plus, où les gens n'ont pas le goût du martyr. Si vous ne leur plaisez pas, ils ne reviennent pas. Ils ont bien raison, entre nous. Donc, ça fait des contacts très privilégiés. Et on ne venait pas entendre chez moi les ragots du quartier. Hein. Donc, comme ça élimine tout de suite. Les choses sont claires. Hein. Les rapports sont clairs, voilà.
C'est quoi? C'est un concentré anti-âge.
Anti-âge?
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Détendez-vous.
Ça va piquer.
À peine. C'est de la haute fréquence diffusée avec un léger courant. Ça permet aux crèmes de pénétrer plus profondément.
Comment ça, profondément?
Vous ressortirez d'ici avec une mine superbe. Je commence. Ça va aller?
Oui. Non. Non. Non, je... Non, mais là, je peux pas supporter. J'étouffe.
On va peut-être parler et détendez-vous. Hein?
Mylène Basset, il y a eu plein de choses qui ont été interdites aux esthéticiennes au fil du temps, l'épilation définitive, ce genre de choses-là. Il y a des appareils dont vous vous serviez, donc vous avez dû vous arrêter de vous servir?
Non, parce que moi je suis absolument pour la légalité, enfin, je me ferai des tas d'ennemis en disant ça, ce n'est pas du tout à nous de faire ça. Je regrette, ou on a des appareils qui sont trop faibles, et donc vous avez de très mauvais résultats, vous n'avez pas le... ni la couverture hein, pour être assuré si vous faites une bêtise, hein, ça peut arriver. Donc je regrette, vous laissez ça aux gens qui veulent bien le faire. Je me suis bagarrée. Hein, bon,
Vous vous êtes bagarrée avec qui à ce sujet-là?
Moi, dès que je suis entrée dans la profession, j'ai été affiliée à un syndicat.
Et il y a eu quoi justement comme grand débat dans ces années-là?
Ben, ça, entre autres. D'expliquer aux esthéticiennes qu'il fallait qu'elles restent dans leur domaine. Alors après, elles prenaient des risques, bon, elles avaient des plaintes, bon, ben, tant pis pour elles, hein, que ce soit les jours disent.
Et pourquoi y a-t-il cette tentation-là d'aller plus loin et d'utiliser des outils qui ne sont pas, a priori, ceux de l'esthéticienne?
Parce que vous avez toujours envie de faire mieux, et il y a le complexe d'infériorité vis-à-vis des kinés. C'est vrai que tout le monde mord un peu sur le travail des autres, sur la médecine esthétique qui est des fois contestable et contestée. Il y a une médecine esthétique qui est très bien. Parce que en réalité, vous avez les vendeurs d'appareils qui sont par derrière, qui vous expliquent que vous allez faire fortune. Bon. Enfin, c'est pas du tout ma théorie. Chacun a sa place. Et je considère qu'on a bien assez de travail. Je crois que dans la vie, il faut avoir des options précises. Et surtout quand c'est un métier qui maintenant est construit, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses, et bien vous ne le faites pas, et puis c'est tout. Point.
On en avait assez parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc, à partir du moment où le métier s'est développé, qu'il y a eu de plus en plus d'esthéticiennes, des non-esthéticiennes également, qui se sont mis à faire un peu tout, n'importe quoi. Donc, il y a eu le massage qui s'est développé à outrance. Donc, les kinésithérapeutes, eh ben, évidemment, n'étaient pas très contents. Hein, ça se comprend dans un sens. Hein. Donc, ils faisaient des procès aux esthéticiennes parce qu'elles faisaient de l'exercice illégal de la kinésithérapie. Le premier procès sur toute la France qui a eu des kinés contre les esthéticiennes, et ben c'est moi qui l'ai essuyé.
Ah bon ?
Oui, ouais, j'ai eu cet honneur. Donc, un jour, J'ouvre mon magasin, tout d'un coup, quatre types sont chez moi, derrière. Alors, voilà, perquisition. Bon, le commissaire, photographe, puis deux autres types. Fouillez partout, regardez partout. Les tiroirs, j'avais envie de lui dire, mais regardez donc sous les meubles, quelquefois. Vous savez, j'aurais caché de la drogue ou tout, on n'en aurait pas fait plus. Hein. Donc, ils ont fouillé partout, tout. On n'a rien trouvé. Bon, pris mon carnet de rendez-vous, pris le nom des clientes. Et alors, convoqué au commissariat.
Donc, parce que vous faisiez de la publicité pour des massages.
Parce que je faisais, voilà. Enfin, c'était... Je ne me rappelle plus si c'était marqué massage. Il faudrait que je recherche parce que j'ai gardé mon dossier, mais en souvenir. Mais enfin, ça durait quand même 6 mois, la comédie. Hein.
C'était quand?
Oh, c'était en 60... Oh, 75, peut-être par là, ou 78, je ne me rappelle plus. Hein.
Et vous, vos parents qui ont créé cette école,
oui.
L'école Françoise Maurice, Alain Maurice, étaient kinésithérapeutes.
Oui, absolument.
Comment ont-ils justement négocié avec toutes les autres professions qui entraient en concurrence ou en conflit avec les esthéticiennes?
Je crois que c'est... Enfin, ils ont eu la chance d'avoir beaucoup de relations dans le milieu des kinésithérapeutes. Mon père a été longtemps président d'une association scientifique qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, la Société de kinésithérapie, qui avait une revue qui était très lue par les étudiants, etc. Donc, on avait moins tendance à le remettre en cause, même dans ses dérives, hein, puisque certains ont considéré que l'esthétique était une dérive, dans la mesure où on prenait une partie des compétences, le massage, pour les conférer à un autre corps de métier.
L'esthéticienne.
Voilà. Peut-être que sa personnalité faisait qu'on avait plus tendance à le croire. D'abord, c'est vrai qu'il n'y avait pas de véritable concurrence, mais c'est vrai qu'à une époque, il y a beaucoup de kinésithérapeutes, de masseurs, qui ont très mal pris cette initiative. Voilà.
Très mal.
Très mal, voilà. Et c'est, bon, à y regarder de près, c'est assez légitime. Après, c'est vrai qu'il y a eu une période où ça a été beaucoup plus difficile. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Et il y a des discours infinis sur même sur s'accorder ou se faire accorder l'utilisation du mot modelage. Pour être sûr que ce ne soit pas une manœuvre qui correspondrait quand même à du massage.
Alors, pourquoi cette manifestation en 2008? Qu'est-ce qui se passe en 2008 pour que tout à coup, des esthéticiennes aillent manifester?
Parce qu'il y avait trop de procès. Il y avait des procès tous azimuts partout dans toute la France, des kinés contre les esthéticiennes.
Vous aviez déjà manifesté avant?
Non, c'était la première fois. Première fois, c'est pour ça qu'ils n'en revenaient pas. Ouais. Bah, je suis partie avec trois quarts de Nantes, vous vous rendez compte? Et il y avait trois quarts de CRS qui nous attendaient là-bas, à Paris. Hein. Mmh. Alors on leur a dit, mais vous savez, nous on n'est pas là pour vous jeter des pierres. On est là pour défendre notre profession. Hein, c'est tout. Parce que notre manifestation, quand même, ça avait réuni plus de 1000 esthéticiennes. Hein. Et ben, ça a quand même fait bouger les choses. Hein. Mais, vous voyez, il a fallu attendre le 24 juillet 2010... pour que la définition du modelage votée à l'Assemblée nationale soit adoptée définitivement et pour paraître au journal officiel, vous voyez. Alors, la véritable définition, c'est comme ça. On entend par modelage, au sens de l'article toc-toc-toc, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.
Avec ce peeling, on va décaper. On va redonner à la peau un peu de sa mémoire. On va lui donner un deuxième souffle. Vous avez compris?
Oui.
N'oubliez pas de leur dire d'arrêter de fumer et donnez-leur en complément pour le soir chez elles le soin complet formule confort d'Electel. Prix 459 francs. Samantha, vous vérifiez le carton qui est arrivé ce matin?
Je ne voulais pas, et je serai encore dans le métier, je persisterai, je ne voulais pas qu'elles tutoient les clientes et je ne voulais pas que les clientes les tutoient. Bon, j'ai encore le droit de vous interdire de tutoyer une cliente, quand même. Ah ben non, alors elle le faisait dans mon dos, sans doute pour pas avoir l'air idiote, j'en sais rien. Alors ça, déjà ça, alors il fallait leur apprendre à dire « bonjour madame ». Eh ben non, c'était pas naturel d'ouvrir la porte, de prendre un manteau. Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça a changé? Je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Autrement dit, de bien rester à sa place, si vous voulez être écouté, il faut que vous ayez un langage qui n'est pas le langage d'une copine. Bon, alors ça, j'étais très démodée, c'est net.
Merci à Muriel Ménager, Alain Maurice, Michel Delattre, Françoise Maurice, Monique Dufour et Mylène Basset. Archivina, Aurélie Marseille. Prise de son, Yves Lehors. Mixage, Philippe Palares. À la pince et à la cire, L'esthétique au travail, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Anne Fleury.
Merci pour votre attention et vos commentaires sur notre site de l'heure du documentaire. Demain, rendez-vous à 17h pour Étudiantes et plus si affinité de Maïlys Bessery et Yvon Croisier. C'est l'été et vous êtes à l'écoute de France Culture.